Bonjour à vous et juste un mot de bienvenue pour vous dire la joie que nous avons avec toutes les équipes du Théâtre de la Ville de pouvoir accueillir les équipes de France Culture et l'émission d'Émilie Aubry ainsi que ses invités ce matin pour continuer dans cette période si complexe pour nous dans les théâtres et ailleurs bien entendu, une activité, une lumière, un lieu de débat, d'échange, de pensée dans cette période et donc pour cette nouvelle année. Donc merci aux équipes de France Culture, merci aux équipes du Théâtre de la Ville d'être à nouveau présent ce matin pour cette émission L'Esprit public animée par Émilie Aubry. Nous continuerons pendant ce mois à vous proposer des directs, évidemment, à travers des masterclass, des spectacles, mais aussi des émissions pour pouvoir continuer à échanger, à penser notre monde, ce monde d'aujourd'hui et comment les choses peuvent être imaginées ensemble pour la suite. Merci à vous et bonne matinée. Et je remercie évidemment Sandrine Trainer et toutes les équipes autour de Sandrine qui nous permettent ensemble de donner vie à ce théâtre aussi ce matin. Merci à vous. Bonne matinée.
Oui. Je croyais que tu me parlais.
Ainsi va s'achever dans quelques instants cette messe du baptême du Seigneur célébrée à l'église Saint-Georges de Périgueux. Nous remercions le père Gauthier Mornas qui a présidé et prêché, Cécile Clouvel, Marianne Briquet, Maximilien Wang et la chorale Saint-Georges pour les chants et la musique. Et bien sûr, pour la prise de son, Hélène Langlois et Mathieu Leroy. Dimanche prochain, 17 janvier, deuxième dimanche du temps ordinaire, nous serons à l'église Saint-Hermelin à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par Mgr Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Je rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous demander le texte de l'homélie d'aujourd'hui à l'adresse suivante. Homélie radio diffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75-008 Paris. Vous pouvez aussi réécouter l'intégralité de cette messe ou la télécharger sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Et dans un instant, nous retrouvons l'esprit public avec Émilie Aubry.
France Culture, il est 11h, tout de suite, Émilie Aubry.
Bonjour à tous, voici l'Esprit public à un autre regard sur l'actualité de la semaine politique et géopolitique avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, le directeur du think tank Terra Nova Thierry Pech, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann et l'éditorialiste Brice Couturier. Au sommaire de ce dimanche 10 janvier, combien sont-ils encore dans le monde parallèle de Donald Trump? Et en France, la campagne de vaccination, toujours en débat entre questions logistiques et arrière-pensée politique.
Nous ne concéderons pas cette défaite, cela n'arrivera jamais. Notre pays en a assez, nous ne supporterons pas cette situation plus longtemps. C'est pour cela que nous sommes ici. Il y a un terme que vous avez inventé, nous allons arrêter le vol. C'est vous qui avez inventé cette expression.
Quelle empreinte laisseront dans l'histoire ces images hallucinantes que nous avons vécues mercredi soir, la prise du Capitole, saint des saints de la démocratie américaine, en réponse à l'appel à manifester d'un président en exercice. Comment oublier ces manifestants pro-Trump, armés, réussissant ce qui pose question à pénétrer dans le Capitole après des heurts avec la police? L'un d'entre eux photographiait les pieds sur le bureau de la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi. Un autre baladant dans les couloirs le drapeau confédéré, sans oublier les tenues paramilitaires, les pancartes scandant « Dieu, des armes et Trump », des militants anti-avortement, un individu arborant un t-shirt siglé « Auschwitz », et ce triste sire, torse nu, tatoué et casque à cornes, identifié depuis comme appartenant au mouvement complotiste QAnon, nous l'entendrons dans un instant. Le spectacle d'une république bananière, a dit l'ancien président Bush, l'état de droit attaqué comme nous l'avons rarement vu, a déclaré Joe Biden, lequel aura géré très habilement la crise, se montrant déjà dans la posture du commandant en chef, rappelant à un président déchu ses responsabilités jusqu'à obtenir de lui un appel au calme, celui d'un pompier pyromane. On se demande dans quel état d'esprit ces parlementaires américains, contraints mercredi de se réfugier sous leur pupitre comme pendant une fusillade, ont pu, quelques heures plus tard, reprendre la séance de certification qui a enfin conduit à ce que la démocratie américaine retrouve son cours normal et reconnaisse officiellement ses 270 grands électeurs qui font désormais de Joe Biden un président officiellement élu. 5 morts et des dizaines d'arrestations plus tard, face aux critiques du monde entier, banni de ses chers Facebook et Twitter, Trump a enfin acté la procédure de transition, mais ne reconnaît toujours pas sa défaite et ne sera pas présent à la cérémonie d'investiture, avec la rumeur persistante d'un meeting des soutiens de Trump qui pourrait se tenir au même moment, le 20 janvier prochain. À la fin de l'histoire, c'est donc l'état de droit, la démocratie américaine qui semble triompher, mais contre un monde, le monde parallèle des Trumpistes, complotistes, adeptes d'une autre vérité, cette sphère que nous voyons grandir bien au-delà de l'Amérique et qui n'a certainement pas dit son dernier mot.
Non, they were not elected, okay?
Ces gens n'ont pas été élus. On a eu des machines électorales de la marque Dominion qui ont permis de détourner les élections au Venezuela, en France, en Allemagne. Partout dans le monde, ces machines sont utilisées pour détourner les élections et créer le marécage avec auquel on a affaire maintenant.
Sylvie Kaufmann, l'homme que l'on vient d'entendre, c'est Jake Angeli, le fameux homme à cornes qu'on a vu absolument partout. Dites-nous qui il est, celui qui se fait baptiser QAnon Shaman.
Alors c'est un personnage qu'on retrouve, alors dans le vrai nom, on n'est d'ailleurs pas Jake Angeli, j'ai oublié son nom exact, on le sait maintenant puisqu'il a été arrêté.
C'est son nom sur les réseaux sociaux.
C'est son nom sur les réseaux sociaux, absolument, et en effet aussi Q Shaman, qu'on a retrouvé dans plusieurs de ces rassemblements de Trumpistes depuis plusieurs mois, et donc qui est un des personnages de ce mouvement que vous avez mentionné, QAnon, qui est un peu la clé de tout ce qui est arrivé mercredi. C'est un mouvement qui a été créé en 2017, alors qui n'est pas un mouvement organisé, c'est pas une organisation, au départ c'est même une théorie conspirationniste selon laquelle les États-Unis sont dirigés par une clique de pédophiles que Trump est chargé de détruire. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu sur Internet une sorte d'infrastructure de théorie complotiste, hein, c'est une machine à fabriquer des conspirations finalement, mais qui n'est pas une structure, qui n'est pas une organisation, un mouvement organisé de la même manière que certaines des milices d'extrême droite ou de suprémacistes blancs dont certains membres ont aussi été à l'œuvre mercredi. Il y a une sorte de nébuleuse autour de tout ça, dont on commence à tirer les fils maintenant autour de ce qui s'est passé, de cette prise du Capitole. Si vous regardez la foule qui est massée devant sur le mall, là, devant la Maison Blanche, en écoutant Trump mercredi, son discours, ce discours qui est incroyablement inflammatoire d'ailleurs, enfin vraiment, moi j'avoue que je l'ai regardé et je me frottais les yeux en écoutant, parce qu'on est pourtant habitué à des discours provocateurs de sa part, mais là il allait quand même vraiment très loin. Et donc il y avait des gens tout à fait ordinaires, des Américains électeurs de Trump, voilà, qui n'avaient pas du tout l'air d'être en ordre de marche pour prendre le Capitole, et puis il y avait d'autres groupes beaucoup plus militants, beaucoup plus déterminés, qui avaient visiblement quelque chose en tête. Et maintenant, on sait que ce quelque chose en tête, c'était la prise du Capitole, en effet. C'était pas, c'est-à-dire que quand Trump a dit « Nous allons marcher sur le Capitole et je serai avec vous », bien entendu, il n'y est pas allé, il est retourné à la Maison-Blanche. Mais on se disait, nous, Européens, ils vont se rassembler devant le Capitole, hurler, manifester, protester, et puis il y aura des rangées de gardes, enfin de policiers bien préparés qui bloqueront. Eh bien non, en réalité, il n'y avait pas. Alors ça, c'est une autre histoire. L'insuffisance notoire de police, de forces de police, mais il y avait en effet des éléments qui voulaient entrer et pénétrer dans le Capitole pendant que se déroulait le vote de certification des résultats de l'élection. Et ils y ont été tout à fait encouragés délibérément par Donald Trump, par le président.
Hubert Védrine, quelques jours après, vous mettez quel mot sur ces scènes hallucinantes de mercredi soir et de jeudi matin? On dit timidement prise de Capitole, est-ce que vous vous dites coup d'État? Mais si l'on dit coup d'État, cela suppose un mouvement extrêmement organisé qui est rentré, qui a pénétré, on l'a dit, dans ce saint des saints de la démocratie américaine avec une stratégie très arrêtée. Quel mot choisissez-vous?
C'est une tentative d'insurrection et une sédition, mais pas un coup d'État, parce qu'il n'y a pas une dimension militaire. Moi, je pense que le viol du Capitole, il n'y a pas eu les joies pour alerter cette fois-ci, vous voyez. Joie du Capitole. Le viol du Capitole, le sanctuaire de la démocratie américaine, je pense que c'est ineffaçable, peut-être pas irrémédiable, si Biden réussit à travailler, à réunir, etc. Mais ineffaçable. On ne pourra plus jamais raconter l'histoire des États-Unis, ni à l'intérieur, ni vers l'extérieur, parce que c'est un pouvoir prosélyte, missionnaire, qui s'ingère, etc., sans cet épisode. Donc on ne peut plus dire simplement les pères fondateurs, Lincoln, la Constitution, etc. Donc c'est fondamental. Je crois que Trump, je ne suis pas sûr que Trump puisse survivre en tant que tel politiquement, notamment pour des raisons judiciaires, mais peut-être quand même, je ne suis pas sûr, mais le Trumpisme, certes. Et donc je crois qu'il faut faire attention à ne pas analyser cet événement stupéfiant, extrême, choquant, comme uniquement une aberration américaine qui va se terminer avec Trump, et espère-t-on avec le Trumpisme. Parce que c'est quand même dans un contexte où dans l'ensemble des démocraties, là où il y en a, il y a quand même un potentiel de rejet de tout ce qui est organisé, de la démocratie représentative, qui est très 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 puissant, sans parler du complotisme qui a toujours existé, parce qu'il y a plein de gens qui, depuis très longtemps, pensaient que tous les mauvais coups, c'était tout la CIA, soit les services russes. Et on a déliré dans les deux. Il y a un peu de vrai dans les deux. On a déliré dans les deux, en fait. Simplement, le complotisme jusqu'ici, tout ce que Trump a réussi à canaliser, exacerber, exciter, etc., était limité à des conversations de bistrot. Donc, c'est l'accès de ce monde-là qui a toujours existé aux réseaux sociaux, à Internet, favorisé et libéré par l'anonymat, qui pose, à mon avis, un problème gigantesque à toutes les démocraties représentatives. Et pas uniquement aux Américains.
Oui, et on va en parler d'ailleurs, puisqu'il y a eu la clôture du compte de Donald Trump, ce qui mérite en soi un vrai débat. Mais avant cela, Brice Couturier, c'est toute la question, en effet, ce matin. Dans ce 6 janvier, est-ce qu'il faut voir un baroud d'honneur du trumpisme, ou un galop d'essai, ou un moment fondateur d'une mythologie trumpiste?
Écoutez, moi, je me reporterais bien volontiers en arrière sur l'histoire du Parti républicain. Souvenez-vous du lancement de ce qu'on appelle la Culture War, la guerre de culture qui a eu lieu en 1992, quand Patrick Buchanan, au congrès du Parti républicain, a dit, je le cite, « Ça concerne ce que nous défendons en tant qu'Américains. Il y a en cours une guerre de religion dans notre pays pour conquérir l'âme de l'Amérique. C'est une guerre culturelle aussi critique pour la forme que prendra cette nation que la guerre froide elle-même. » Donc c'était Patrick Buchanan en 1992. L'année suivante, Bill Clinton a été élu président des États-Unis et il est resté 8 ans puisqu'il a été réélu. Le même Patrick Buchanan, aujourd'hui même, il y a 15 jours, a écrit la chose suivante dans la revue Chronicles, conservatrice. « Le nationalisme de l'Amérique d'abord, assurer la sécurité de nos frontières, utiliser le protectionnisme pour faire revenir notre base industrielle, dire adieu au globalisme, rester en dehors des guerres inutiles, hostile et refuser les croisades idéologiques. Je pense qu'on vient d'assister en réalité non pas à la fin de quelque chose, mais au début de quelque chose d'autre. Je pense que la conquête du Parti républicain, qui était un vieux parti conservateur favorisant la loi et l'ordre, favorisant le libre-échange, favorisant les croisades américaines à travers le monde, ce parti a été pris en otage par une OPA hostile, comme disait le propre fils de Donald Trump, une OPA hostile par un homme qui est profondément populiste et qui a renversé toutes les valeurs du Parti républicain, puisque ce parti libre-échangiste est devenu protectionniste, ce parti de la loi et de l'ordre est devenu un parti dont les membres font irruption, lawlessness, comme a dit exactement Joe Biden, au sein du Congrès. Donc on voit que le renversement total des valeurs du Parti conservateur est en cours. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter d'aussitôt, parce que je ne pense pas que la carrière de Donald Trump est terminée. Pourquoi ? Parce que je vois un sondage qui a été publié cette semaine par le Wall Street Journal. On demande aux électeurs républicains: pourquoi avez-vous voté pour ce parti aux élections de l'année dernière ? 38% répondent parce que je suis un supporter du Parti républicain, 54% répondent parce que je soutiens Donald Trump personnellement. Donc on voit bien qu'au sein même du Parti républicain, vous avez en ce moment un conflit extrêmement profond au sein même de ses électeurs, de ses élus, je veux dire des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants, entre ceux qui défendent Donald Trump et ses nouvelles valeurs illibérales et populistes, et la vieille garde conservatrice républicaine qui est extrêmement mal à l'aise devant la tentative de coup d'État, parce qu'il faut appeler effectivement les choses par leur nom, que le président en exercice est battu, a tenté pour essayer d'empêcher le Congrès de prononcer officiellement les résultats de ces élections qui sont effectivement imparables. Donald Trump a beau avoir demandé à des responsables républicains dans plusieurs États tangents de lui trouver les voix qui lui manquaient, ils ne les ont pas trouvées parce qu'elles n'existent pas, tout simplement. Donc on voit bien qu'un homme qui a été battu aux élections continue à nier le résultat de ces élections, ne veut pas du suffrage des urnes et prétend passer outre. La suite est très inquiétante. On peut se demander jusqu'où peut aller ce personnage, jusqu'à quelles extrémités, poussé par une base profondément illibérale et populiste, il peut aller à nouveau.
Pour vous aussi, Thierry Pêche, aujourd'hui, la clé de l'avenir aux États-Unis réside sur ce parti républicain. Êtes-vous d'accord avec Brice, qui nous explique qu'il est en train de céder, au fond, à cette vision du monde et à ces thèses illibérales et populistes? Et puis, il y a aussi ces spécialistes des radicalités aux États-Unis qui expliquent qu'aujourd'hui, un certain nombre d'élus écoutent, reprennent certains éléments de langage de ces mouvements complotistes que nous citions tout à l'heure avec Sylvie, à savoir, par exemple, le fameux mouvement QAnon.
Non, je suis plus. Je pense un peu différemment. Je pense que Donald Trump sortait de cette élection avec la plus belle défaite de l'histoire de la vie politique américaine. 74 millions d'électeurs s'étaient portés sur lui, sur son nom. C'était absolument énorme. Dans n'importe quelle autre circonstance, il aurait gagné avec un tel magot. Alors, 74 millions, c'est rien comparé au nombre de followers du personnage sur Twitter, 88 millions, mais c'est tout de même considérable. Je crois qu'en 2 mois, il a gâché son avenir politique. Effectivement, il trouvera toujours des électeurs pour le soutenir chez les Républicains, mais il a brisé la possibilité d'une unité du Parti républicain, parce qu'évidemment, les adeptes des thèses complotistes, les adeptes des thèses profondément illibérales au sein de l'électorat républicain ne représentent pas la totalité de cet électorat. Je crois que Donald Trump va pouvoir méditer dans les mois qui viennent, si toutefois il a encore une vie intérieure qui permette de méditer. Il va pouvoir méditer le vieil adage selon lequel la roche tarpéienne est proche du Capitole, précisément. Là même où il avait prêté serment. Cette tragicomédie que nous avons suivie pendant 4 ans, est venue s'achever, la même où elle avait commencé et où commencera dans quelques jours le prochain mandat. Ce naufrage, il s'est fait en plusieurs temps. En 2 mois, il a vraiment réussi à gâcher ce qu'il avait réussi d'une certaine façon dans cette élection. Première étape, les procédures. Cette élection nous a été volée, nous avons des preuves. Montrez vos preuves, il n'y a pas de preuves. Brice l'a dit, premier échec. Deuxième échec, il a tout de même réussi à faire perdre aux Républicains leur majorité au Sénat. Je veux dire, c'est tout de même fantastique.
Oui, autre fait de la semaine passée presque
bien
inaperçu.
Sûr, mais qui est le plus important pour les 4 ans qui viennent. Donc l'électorat de Géorgie, d'un État du Sud, un ancien État ségrégationniste, où le drapeau confédéré a été brandi bien des fois, a basculé démocrate. Démocrate sur 2 figures dont on ne peut absolument pas douter de l'identité profondément démocrate. Troisième temps, enfin, la débandade de ses proches, qu'il faut saluer d'ailleurs, parce que la position de quelqu'un comme Mitch McConnell ou Mike Pence dans cette circonstance historique a été vraiment très honorable. Ce sont des gens dont je ne partage pas les idées, mais qui, au rendez-vous de l'histoire, étaient là et ont pris les bonnes décisions. Enfin, la marche sur le Capitole, bien sûr, a couronné cet effondrement de l'avenir politique de Donald Trump. Ça ne veut pas dire que le populisme n'a pas un avenir aux États-Unis, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que sous la forme qu'il a prise ces derniers jours, il s'est condamné à être longtemps minoritaire et il s'est condamné à avoir une autre conséquence, c'est de compromettre toute alliance électorale possible dans les années qui viennent pour les Républicains s'il reste dans cette position.
Alors, Sylvie Kaufmann, d'abord, votre regard, en effet, sur ce débat qui oppose, je vous déguillemets pour le dire, Brice Coutier à Thierry Page, mais en tout cas qui ne partage pas manifestement la même vision de ce que sera l'avenir du Trumpisme et du Parti républicain. Je voulais réagir aussi sur Mike Pence et son rôle clé joué toute la semaine.
À Mike Pence, oui.
Voilà. Et puis également sur les 10 jours à venir, en effet, qui soulèvent un certain nombre de questions. Que va faire Donald Trump d'ici au 20 janvier prochain?
Moi, je suis moins optimiste que Thierry, parce que ce mouvement vient de loin. C'est pas un épisode isolé, ce qui s'est passé mercredi. Ça fait 4 ans que c'est en gestation, si je puis dire. Justement, vous évoquiez la cérémonie d'investiture de 2017. Déjà, ce discours de Trump à cette cérémonie d'investiture était inflammatoire, hein, quand il parlait du carnage américain, etc. C'était déjà la manière dont il s'est comporté avec Obama, alors que ça ne se faisait pas normalement d'être aussi critique avec son prédécesseur, etc. Déjà, on avait tout ça en gestation. Ensuite, les signes avant-coureurs ont été multiples. Enfin, même la prise du Capitole, on a eu l'attaque du Capitole du Michigan, rappelez-vous, il y a quelques mois, enfin l'année dernière, il y a ces groupes qui ont essayé de prendre en otage, de kidnapper la gouverneure du Michigan. Le FBI a mis en échec ce complot, mais elle avait été mise à l'abri. Enfin, il y avait un véritable complot. Ils voulaient enlever la gouverneure démocrate pour la juger. Donc, on a quand même quelque chose qui est derrière, qui est très profonde et qui se rapporte d'ailleurs, qui a des racines dans l'histoire des États-Unis. Toutes ces milices, je me souviens, on les a découvertes un petit peu au moment de l'attentat d'Oklahoma City en 1995, qui a fait 168 morts. Hein. C'était un de ces allumés, je vous rappelle, Timothy McVeigh, qui a conduit son camion, qui en voulait à l'État fédéral, qui voyait des complots et des monstres partout, qui a conduit son camion devant un bâtiment fédéral d'Oklahoma City à 9h du matin, qu'il a fait exploser, 168 morts, dont 19 enfants dans la crèche du bâtiment. Et ça a provoqué un choc terrible parce que l'Amérique a découvert ces milices de survivalistes, de suprémacistes, d'antisémites, de racistes, etc., armés jusqu'aux dents dans les États de l'Ouest, de l'Amérique profonde, etc. Et s'est réveillé. Et après, il y a eu l'ère de prospérité des mandats Clinton qui ont fait que aussi la vie des Américains s'est améliorée, la vie quotidienne s'est améliorée, mais ce choc d'Oklahoma City a été salutaire et a nettoyé un peu l'Amérique de ces milices. Mais là-dessus, il y a eu le 11 septembre, la guerre d'Irak. C'est d'ailleurs assez révélateur que la femme qui a été tuée, la manifestante qui a été tuée, Ashley Babbitt, était une ancienne combattante. Elle était une militaire qui avait été déployée en Irak et en Afghanistan. Une femme de 35 ans qui était adepte de QAnon, elle aussi devenue un peu paumée. Il y a eu surtout la crise de 2008. Il y a eu les présidences, les deux mandats d'Obama. Et donc, ces mouvements ont repris énormément de force et ils ont été légitimés par la présidence Trump. Et Mitch McConnell, donc je reviens à ça, Mitch McConnell, d'accord, il a eu ce discours magnifique en disant il faut adhérer à la Constitution, c'est ça, c'est notre loyauté doit aller à la Constitution, et donc je ne je ne m'opposerai pas à la certification des résultats. Mais il a mis combien de temps pour reconnaître la victoire de Joe Biden ? Il a mis plusieurs semaines. Ça veut dire que pendant plusieurs semaines, lui, chef de la majorité au Sénat, personnage très important politiquement, avec une influence énorme, il a accrédité l'idée qu'il y avait une fraude électorale massive et que ce président n'était pas élu, n'était donc pas légitime. C'est grave. Il y a aussi plus de la moitié des élus à la Chambre des représentants, des élus républicains, pardon, à la Chambre des représentants, 60% de ces élus, qui, après le viol du Capitole, comme dit Hubert Védrine, se sont prononcés contre la certification des résultats. Ça veut dire que même ce choc-là ne leur avait pas servi de leçon. Voilà. Donc je pense que avant de nettoyer tout ça, il va y avoir beaucoup de travail. Heureusement, Joe Biden a le Sénat, le contrôle du Sénat. Je suis d'accord, c'est fondamental. Mais ça va être très difficile, d'autant plus qu'il a à gérer une crise sanitaire gravissime et une crise économique qui va avec.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, Sylvie Kaufmann, c'est qu'aujourd'hui, à l'intérieur du Parti républicain, et vous vouliez réagir, Thierry Pêche, il y a en effet un certain nombre de responsables d'élus qui sont dans ce monde parallèle déjà, à la fois dans leur rapport à la vérité et dans leur rapport à la démocratie.
Oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut. Je pense qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ce sera peut-être différent dans 4 ans, dans 8 ans, on ne construit pas une alliance électorale victorieuse sur les thèses de QAnon. Il n'y a pas, bien sûr, dans l'électorat américain, une majorité de gens qui pensent qu'aujourd'hui, les banquiers sont en train de financer des bases souterraines où on invente des technologies d'antigravité pour imposer l'ordre public mondial de demain. Je crois qu'il y a encore aux États-Unis suffisamment de gens qui sont allés à l'école pour penser que c'est absurde. Donc, tout ça se développe, c'est sûr, le complotisme se développe. Mais le complotisme n'est pas une stratégie gagnante politiquement. C'est une stratégie gagnante pour le désordre.
Et le destructrice.
Aujourd'hui. Ouais. Par ailleurs, évidemment, vous avez raison, Sylvie, Mitch McConnell n'a rien d'honorable dans ses attitudes, ses choix, ces dernières semaines. Mais au moment où on leur demandait de violer les institutions, ces gens ont dit non. Là, ça arrête. Notre délire collectif, notre fidélité est à la Constitution. Et par ailleurs, tout de même, l'électorat républicain, face au viol du Capitole, comme dit Hubert, il dit quoi ? 43% d'entre eux, selon un sondage, disent qu'ils s'y opposent. Donc, Trump a réussi à casser ce qui restait de possible pour ce parti républicain. Moi, j'ai envie de dire, comme sympathisant démocrate, c'est dommage qu'on ne le laisse pas encore un mois, parce que là, je pense qu'il sacrifierait tout ce qui reste à sacrifier.
Brice Couturier, puis je vous donnerai la parole juste après, Hubert Védrine. En fait, réellement, c'est aujourd'hui un problème quantitatif qui se pose, et personne ne sait pour l'instant vraiment répondre à cette question. Thierry, vous nous dites en fait qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui de complotistes aux États-Unis pour composer une majorité. Et en même temps, il y a toutes ces études qui portent sur les États-Unis, mais pas que. Il y en a une très intéressante assez récemment en Allemagne, par exemple, par la Fondation Konrad Adenauer, qui expliquait que 30% de la population allemande aujourd'hui pense que les théories du complot sont probablement ou certainement correctes. Et cette même étude racontait cet étonnant rapprochement entre les extrémistes de droite et des citoyens qui sont aujourd'hui issus de ce que l'étude appelait le centre bourgeois. Il est là aujourd'hui aussi le cœur du problème.
Oui, il est surtout le problème lié à la polarisation extraordinaire qui est en train de déchirer nos démocraties et qui les amène au bord de la guerre civile, les États-Unis étant comme toujours le précurseur de tous les, comme Tocqueville l'avait bien montré, le précurseur de tout ce qui survient dans l'histoire de nos démocraties. Car nous aussi, n'oublions pas, nous avons vu des gilets jaunes, ils n'avaient pas le président derrière eux par bonheur, donc ils n'ont pas pu faire irruption dans l'Assemblée nationale ni au Sénat, mais enfin ils ont quand même attaqué des ministères, ils ont menacé la présidence de la République, ils ont menacé. Là, on voyait que les... Vous avez vu, on n'a pas encore dit, mais une des choses qui m'a le plus frappé dans les événements du Capitole, c'était que ces gens cherchaient le vice-président Mike Pence pour le pendre. Pour le pendre, il y a eu sur les réseaux sociaux le truc « Hang Mike Pence » parce qu'il avait trahi le président Donald Trump en refusant de rentrer dans l'atmosphère complotiste dans laquelle son président voulait l'entraîner et qu'il a fait cette déclaration extrêmement digne en disant qu'il n'était pas du côté des manifestants. Donc on voit bien qu'un peu partout dans nos démocraties, nous voyons une extrême droite et une extrême gauche, ne l'oublions pas dans le tableau, toutes les deux radicalisées à l'extrême, tenter d'emporter ces deux vieux partis centristes qui étaient juste jusqu'alors le Parti démocrate et le Parti républicain vers leurs extrêmes et les faire changer de nature. Par bonheur, Joe Biden a été choisi par la majorité centriste du Parti démocrate, mais il y a une aile gauche dans ce Parti démocrate qui est woke, qui est dingue, qui est tout aussi complotiste, excusez-moi, mais d'une manière différente que l'extrême droite trumpiste. Et cet écartèlement extravagant entre une extrême droite et une extrême gauche qui entraîne les deux partis respectifs vers leurs extrêmes est extrêmement dangereuse pour la démocratie, parce que la démocratie repose sur le compromis. Traditionnellement, le Congrès est une partie du Congrès, en tous les cas, est généralement hostile au président en titre. Jusqu'à présent, ça marchait pas si mal, parce qu'il y avait des compromis et des négociations. Ça a commencé à rater sous Obama, quand le Sénat a commencé à faire de l'opposition systématique envers le président parce qu'il était de gauche et qu'ils étaient de droite. C'est une rupture des traditions démocratiques américaines. Elle anticipe, à mon avis, d'autres phénomènes du même genre chez nous. Je me demande ce qui se... On a vu déjà, nous aussi, des gilets jaunes descendre dans la rue parce qu'ils recontestaient le résultat d'une élection dont l'issue leur avait déplu profondément. Ils ne voulaient pas de ce président-là. On a la même chose aux États-Unis en ce moment. Le problème, c'est qu'en face, nous avons des concurrents. Nous avons la démocratie illibérale d'Orban ou de Poutine ou d'Erdogan. Nous avons le modèle communiste totalitaire chinois qui semble marquer, qui semble, aux yeux de beaucoup de gens, plus efficace dans la gestion, par exemple, de l'épidémie dont nous allons parler tout à l'heure, que notre modèle démocratique et libéral à nous. Donc, on voit bien que ce modèle démocratique, aujourd'hui, il est profondément en crise interne et qu'en plus, il est contesté de l'extérieur avec des réseaux sociaux qui sont souvent manipulés par ces puissances étrangères qui, elles, cherchent à montrer que nos démocraties ne sont pas viables. Et c'est une situation extraordinairement dangereuse.
Oui, vous citiez d'ailleurs la Chine, Brice Couturier. Il ne vous a pas échappé, Hubert Védrine, ce qui a été un peu le côté très pernicieux du communiqué de Xi Jinping, qui comparait ce qu'on voyait à l'assaut du Capitole aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong. Hubert Védrine, revenons sur ces parallélismes établis par Brice Couturier. Est-ce que c'est pertinent pour vous, en effet, de comparer ce que Brice appelle ces ruptures des traditions démocratiques lorsqu'il compare, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes à ce qui s'est passé aux États-Unis, avec évidemment toutes les différences qui existent entre ces deux pays?
Oui, je crois que ce que nous décrivons tous concerne toutes les démocraties représentatives combattues à partir de délires complotistes, mais je pense que c'est plus ancien, c'est plus général, et ça ne disparaîtra jamais complètement. C'est dans James Bond, c'est le spectre, vous vous rappelez? Il gouverne tout. Bon. Donc je pense en effet que ça concerne toutes les démocraties et que la demande de démocratie directe, immédiate, qui peut aboutir à ce qu'on soit consulté toutes les heures sur le portable pour savoir si on rétablit ou non la peine de mort dans la minute. Non mais il y a le moyen technologique de faire ça. Alors que quand c'est la démocratie dans les petites villes en Suisse, démocratie locale, très bien, vous voyez. Donc ça existe. Et donc je pense qu'il faut vraiment, il y a des caractéristiques américaines spécifiques que vous avez très bien décrites. Mais il y a une vraie interpellation et à mes yeux, la contestation interne des classes populaires puis moyennes qui ont décroché sur la mondialisation et l'Europe est beaucoup plus dangereuse que les ricanements ou les insultes externes. C'est normal que les Russes et les Chinois rigolent, évidemment, parce qu'on leur fait la leçon tout le temps, toute la journée, sur plein de trucs, et souvent à juste titre. Donc il y a un vrai danger interne, mais conjoncturellement, aux États-Unis, compte tenu de ce qui a été dit très bien sur le Parti républicain, je vois pas qui pourrait réunir le Parti républicain pour menacer Biden. Et même, ça devrait lui permettre de faire avec des républicains repentis de la dernière heure des accords bipartisans, peut-être, quelques-uns. Il suffit d'en trouver une dizaine au Sénat. C'est pas impossible, ça. Donc Biden a cette possibilité qu'il n'avait pas il y a 15 jours. En revanche, il aura des problèmes énormes du côté de pas de la gauche du Parti démocrate, parce que je pense qu'il peut y avoir des accords sur des réformes fiscales entre Biden et Sanders ou Warren, mais pas avec les gauchistes. Parce que l'ensemble des gauchistes qui considèrent que le Parti démocrate est leur terrain de chasse maintenant, les gauchistes d'aujourd'hui, tous les mouvements, toutes les, entre guillemets, minorités ou pas minorités, d'ailleurs, les femmes, tous les mouvements qui ont été pris en main par des activistes fondamentalistes, violents, la culture du woke, c'est-à-dire des méthodes fascistes pour empêcher les gens qui pensent autrement de s'exprimer. Je pense que Biden va être empoisonné par ces groupes-là. S'il n'avait pas eu le contrôle du Sénat, il aurait pu dire, attendez, il faut faire passer l'unité du Parti démocrate avant. Donc arrêtez de m'embêter. Mais là, ils vont dire, mais non, on contrôle tout. Donc on veut retrouver notre place, ce que nous représentons dans le pays ou sur les campus, que sais-je. Mais ça donne à Biden donc une petite marge de manœuvre du côté de certains républicains qui certainement ne vont pas reprendre le contrôle du parti républicain, qui va être une sorte de bateau ivre, compte tenu des phénomènes de fond qu'on a décrits. Donc ça lui donne conjoncturellement une petite marge de manœuvre dans la période assez courte qui le sépare des élections du mid-term.
Alors, Sylvie Coffin, vous vouliez réagir, et puis après, j'aimerais qu'on parle de la suspension du compte Twitter de Donald Trump et des questions que cela pose.
Non, je voulais répondre à la question, une des questions que vous avez posées tout à l'heure et à laquelle je n'ai pas répondu, qui était qu'est-ce qui va se passer pendant ces 11 jours. Et c'est vrai que c'est une période extrêmement dangereuse, et vous parliez de la Chine tout à l'heure. Je suis très frappée par le fait que Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, ait annoncé hier que les États-Unis annulaient les restrictions des contacts avec Taïwan. Et faire ça, ça c'est un sujet ultra sensible avec Pékin. Pour Pékin, Taïwan, c'est comme Hong Kong, c'est vraiment un sujet numéro un pour Xi Jinping. Et pour Mike Pompeo, faire ça 10 jours avant l'arrivée au pouvoir de Biden, c'est une provocation. C'est-à-dire, c'est mettre en danger, la paix. On ne sait pas comment va réagir la Chine, mais elle peut décider de réagir, de profiter de cette période de 10 jours pour réagir.
C'est-à-dire déclencher une... aller jusqu'au bout.
Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on peut imaginer une réaction très brutale ou dangereuse. Il ne vous a pas échappé que la Russie a lancé pendant cette transition une attaque informatique énorme contre les États-Unis, avec apparemment des dégâts très profonds. Et d'ailleurs, on peut être étonné de la faiblesse des défenses américaines face à cette attaque. Les Iraniens ont aussi choisi cette période pour annoncer qu'ils remettaient le traitement de l'uranium à plus de 20%, enfin au seuil qui est dangereux aussi. Donc on a déjà une transition très chaotique où on voit que les ennemis finalement des États-Unis se mettent en place, enfin prennent position. Que ces 11 jours, pense, sont à haut risque. Et ce n'est pas tout à fait absurde de la part, on peut trouver ça excessif, mais quand Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, dit qu'il faut lui enlever les codes nucléaires, il faut le retirer de ses fonctions parce qu'il est dangereux, finalement, on se dit
c'est pas tout à fait absurde. Un effet d'annonce. Très brièvement, Hubert Védrine, vous partagez les inquiétudes de Sylvie Coffin sur les 10 jours qui viennent, et ce que pourrait en faire Donald Trump ou Mike Pompeo, justement.
Ce qui va dans le même sens de ce que dit Sylvie, c'est l'appel de tous les anciens secrétaires à la Défense.
Oui, absolument.
Tous, quel que soit leur parti, y compris deux d'entre eux qui ont servi sous Trump. Alors c'est un appel sur le fait que l'armée ne doit pas être utilisée pour peser sur les processus électoraux. Enfin, ça va au-delà. Donc ils sont tous d'accord, j'imagine qu'ils sont absolument d'accord avec ce qu'a dit Mme Pelosi. Donc il y a peut-être des risques dans le cerveau maintenant détraqué de Trump, même si c'était une erreur complète depuis le début, le prendre pour un fou. Mais je pense qu'il y a un système américain très affaibli, enfin quand même là, qui se réorganise dans cette période. Donc je pense que ça va tenir, en gros, qu'ils vont l'encadrer malgré tout, vous voyez, et que même s'il donne un ordre fou, je pense qu'il ne sera pas exécuté. Je parle de l'ordre.
Oui. Il faut l'espérer, dit Sylvie Coffin.
La roche tarpeienne est proche et elle est faite pour ça.
Thierry Pech, avant de retourner à nos débats sanitaires hexagonaux, un mot, je le disais tout à l'heure, sur la suspension du compte de Donald Trump, qui a suscité un nombre incalculable de réactions. En France aussi, d'ailleurs, on peut citer Marine Le Pen, qui a expliqué sur Twitter que la suspension du compte de Trump, qu'elle qualifie de purge par les géants du numérique, devrait indigner tout citoyen. Où s'arrêtera, dit-elle, le contrôle de toute opinion dissidente? Ça pose quel genre de problème, en effet, ce qui s'est passé cette semaine avec les comptes de Donald Trump, du président américain?
C'est le résultat de toutes nos démissions sur ce sujet depuis des années. Aujourd'hui, ces boîtes, Twitter, Facebook, se trouvent devant un dilemme. On vient de le dire, les 10 jours qui viennent sont riches de très nombreux périls. Aucune de ces entreprises ne veut être complice, directement ou indirectement, d'appels à la violence, d'appels au désordre, de marches sur telle ou telle institution. Et donc, ils en sont arrivés à suspendre ce compte. Et il faut se souvenir que leur mise en cause dans la gestion des débats démocratiques, elle est maintenant ancienne, 2016, Cambridge Analytica. Mais chez nous, Samuel Paty, le débat est encore tout chaud, tout frais. Voilà, on n'a pas su réguler ces acteurs, on n'a pas su leur imposer des règles, et pourtant on était légitime à le faire. Ils sont une partie de l'espace public. Et donc cet espace public, il n'est pas privatisable complètement, il faut lui imposer des normes. Du coup, ils en arrivent à prendre des décisions dont on se dit que si demain elles valent les principes, ce serait absolument terrifiant. Des acteurs privés pourraient débrancher des personnalités publiques, violer leur liberté d'expression. Il est évident que ça ne peut pas être une façon régulière de fonctionner. On peut comprendre que dans la circonstance, ils aient pris ce genre de décision, mais on ne peut pas du tout justifier ce type de décision comme, d'un point de vue de pure légitimité, de principe.
Brice Couturier.
Écoutez, ce type, quoi qu'on pense de lui, vient d'obtenir 74 millions de voix aux États-Unis dans une élection. Je trouve extravagant personnellement qu'un président en exercice, parce qu'il est encore pour 10 jours, qui vient de recevoir 74 millions de voix, soit débranché par des acteurs privés. Il est vraiment temps de mettre fin à ces oligopoles, de les mettre sous contrôle. On ne peut pas tolérer que les geeks californiens décident de ce qui est discible, de ce qui ne l'est pas. Ça ne les regarde pas. Ou bien ils deviennent des médias orientés politiquement comme les autres. Quand on achète Le Figaro, on sait que c'est de droite. Quand on achète Libération, on sait que c'est de gauche. Je suis désolé, quand on poste des choses sur Twitter ou sur Facebook, on ne sait pas si c'est de droite ou de gauche. C'est nos avis, c'est nos principes, c'est nos affirmations à nous. Que ces geeks californiens décident dorénavant de qui a le droit de parler ou qui n'a pas le droit, c'est rentrer dans un processus extrêmement inquiétant de privatisation de l'espace public et de censure généralisée.
Hubert Védry.
Brice a raison, mais Thierry a répondu déjà. Il faut des règles. On ne peut pas s'en tenir au fait qu'ils vont décider de ce qui est discible ou pas. Sinon, si c'est la culture du woke portée au fanatisme, ce n'est pas mieux que la culture des trumpistes fous portée au fanatisme. Et ce n'est pas parce qu'on est soulagé au dernier moment, la dernière minute, même remarque que ce que disait Sylvie Kaufmann sur
McConnell.
Voilà, oui. Au dernier moment.
Mitch McConnell.
Tout dernier moment. Bon, non, en effet, il faut des règles. On ne peut pas accepter ça.
Mais une fois qu'on a dit ça, on a toujours le sentiment que le débat s'arrête là, Thierry Page. Donc il faut réguler. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut réguler? Ça veut dire qu'en effet, quand ça se met à menacer la démocratie, par exemple interrompre ou condamner ou suspendre, par exemple, le compte Twitter d'un Donald Trump. Ça veut dire quoi? Que Twitter devient un média avec, je vous déguillemets pour le dire, une ligne éditoriale? Ou est-ce qu'on laisse faire? Ou est-ce qu'on assiste aussi, pourquoi pas, à une démultiplication des réseaux sociaux qui fait que chacun ira choisir le réseau social qui correspond à son opinion politique, à son identité?
C'est pas très gentil, Émilie, alors qu'il reste deux minutes sur cette discussion, de m'adresser la question la plus complexe. C'est un problème extrêmement compliqué. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le principe, tout est compliqué. Moi, je m'y suis un petit peu frotté, intéressé. C'est vraiment très complexe. Il y a quand même, au milieu de tout ça, deux ou trois idées qui doivent guider le jugement. Il y a ce qu'a dit Hubert tout à l'heure. L'anonymat n'est pas un principe de débat public. Ça ne peut pas l'être. Depuis le XVIe siècle et la Renaissance humaniste, on a considéré que chacun était responsable de sa parole. Et responsable, ça veut dire qu'on en répond et qu'on dit qui on est quand on parle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la responsabilité des hébergeurs. Ça fait couler beaucoup d'encre depuis longtemps. On ne peut pas se considérer, fût-ce au titre de la puissance des GAFA, de Twitter et des autres, on ne peut pas se considérer comme totalement irresponsable.
Mais là, ça a été le cas. On va considérer que la Twitter ne s'est pas montrée irresponsable, au sens où ils ont agi et fait quelque chose. Sauf que ça n'est pas satisfaisant ni acceptable non plus.
Ils sont un espace public, encore une fois. Aujourd'hui, ils sont un espace public. Eh bien, à ce titre, ce n'est pas un espace sauvage. Ce n'est pas un espace complètement affranchi de toute règle. Donc, ils ont des responsabilités. Mais ce n'est pas à eux de juger qui doit parler ou pas parler.
Donc, c'est à des autorités indépendantes, éventuellement, de couper le sifflet à un Donald Trump lorsqu'il y a incitation à la haine ou à la violence.
Couper le sifflet. Regardez.
Ou la concurrence.
Regardez ce qui a été fait sur le guide de la révolution Ali Khamenei. On n'en parle pas, mais il a déclaré hier, avant-hier ou il y a trois jours qu'il fallait se méfier des vaccins américains parce qu'ils risquaient d'empoisonner les nations qui leur déplaisent. Idem pour les vaccins britanniques et même les vaccins français, dont on aimerait qu'ils existent d'ailleurs, même les vaccins français, c'est pas terrible à cause de l'affaire du sang contaminé. Bon, Twitter a censuré ce tweet. Pas débranché Ali Khamenei. Bon,
Simplement ça, c'est du travail. Ça veut dire que vous surveillez en permanence, chaque jour, des quantités industrielles de comptes. Et donc, ça, bah, ça fait baisser la rentabilité du business.
Ce sera la dernière question avant de revenir en France. Qui doit surveiller, Hubert Védrine ? Qui doit surveiller ?
Ah, mais c'est une question mondiale qui est posée. Hein. Parce que ça vient des États-Unis, ça vient de Californie, ça vient de la révolution GAFA. Alors évidemment, les Européens peuvent essayer de mettre au point des règles en combinant justement l'existence d'une concurrence. Ah, et d'autre part, de réponses qui sont plutôt commentées, pas censurées, pas coupées. Enfin bon, mais Thierry l'a dit, c'est très 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 compliqué, on ne va pas le dire en deux minutes. En tout cas, il faut que, comme il y a des espaces publics relativement homogènes, par exemple pour nous, il faudrait que ce soit l'espace public francophone, vous voyez, on peut le faire par langue, par entité. Bon, mais un pays tout seul ne peut pas le faire, sauf à proposer quelque chose, c'est comme l'histoire de la fiscalité sur les GAFA. Quoi.
Donc un comité de régulation mondiale des GAFA ?
Non, on n'y arrivera pas.
Écoutez, Émilie, vous nous invitez à nouveau, on y aura réfléchi, on consacrera une émission si vous voulez bien à ce sujet.
Puisque c'est un sujet.
On ne peut pas le traiter en deux minutes.
On s'arrête, on y réfléchit, on y consacrera toute une émission. En attendant, on va revenir en France et à ce sujet qui n'en finit plus, en effet, de faire la une, la vaccination et au-delà, la gestion de la pandémie. Une question politique ou logistique, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
La Commission européenne a annoncé vendredi 8 janvier la conclusion d'un nouveau contrat avec Pfizer et BioNTech pour la livraison de 300 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre le Covid-19. Mercredi, les institutions communautaires avaient par ailleurs annoncé l'autorisation de mise sur le marché d'un deuxième vaccin, celui qui a été développé par l'américain Moderna et dont la Commission a commandé 160 millions de doses. Nous avons désormais sécurisé l'achat de suffisamment de doses pour vacciner 380 millions d'Européens, soit 80% de la population européenne et d'autres vaccins vont suivre dans les semaines et mois à venir, s'est réjouie Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Une déclaration européenne importante pour faire taire la polémique en Allemagne sur le risque de pénurie. Et oui, les polémiques existent aussi en Allemagne. L'Allemagne qui a démarré fort sa campagne de vaccination avec des dizaines de milliers de personnes vaccinées en seulement quelques jours. Mais l'Allemagne qui fait face désormais à une crainte grandissante de se retrouver en manque de doses. Avec 400 000 Allemands vaccinés en deux semaines, le pays d'Angela Merkel se heurte désormais aussi à des problèmes logistiques. Le Parlement de Berlin redoute en effet une pénurie de vaccins qui arrive au compte-gouttes dans les différentes régions du pays et certains élus accusent notre gouvernement a laissé l'Union européenne organiser les achats de vaccins, c'était une erreur et ces Allemands-là d'envier les Israéliens, les Américains, les Britanniques vaccinés avant les Européens et de surcroît plus massivement. En France, les élus, comme François Baroin par exemple, le président de l'Association des maires de France, reprochent eux au gouvernement français d'avoir confié le pilotage de la vaccination au ministère de la Santé et aux fameuses ARS, Agence Régionale de Santé, des producteurs de normes administratives, mais certainement pas des logisticiens, dit Baroin, fin de citation. Le ministre de la Santé, lui, vous allez l'entendre, concède désormais une certaine frilosité dans la stratégie vaccinale française, quand d'autres entonnent plus franchement le refrain du mammouth administratif hexagonal, sa pesanteur, son inefficacité, lors d'une gestion de crise. Bref, en ce mois de janvier 2021, et tandis que pointent deux nouvelles craintes baptisées variant britannique et variant sud-africain, le débat est logistique, à moins qu'il ne soit aussi et surtout politique.
On a peut-être été un peu en défensif par rapport à la question du vaccin en général, du vaccin ARN messager en particulier. Je note que 5-6 jours plus tard, il y a des millions d'humains qui ont été vaccinés, que les choses se passent très bien, on a davantage de recul. Les autorités sanitaires et scientifiques, qui sont par essence un peu plus frileuses que moi encore, le sont nettement moins aujourd'hui et nous disent « vous pouvez y aller en confiance ». Donc moi je suis extrêmement confiant vis-à-vis de ce vaccin et des autres à venir quand ils seront validés. Donc je souhaite ardemment convaincre les Français d'aller se faire vacciner.
Alors, on n'a pas aujourd'hui à l'espace Cardin d'ancien ministre de la Santé, ni même de médecin ou de profession médicale, mais on a un ancien secrétaire général de l'Élysée qui a un regard sur ce qu'est une bonne ou une mauvaise logistique.
Alors, je pense qu'il faut d'abord rappeler qu'avant la logistique, il y a la décision générale. Est-ce qu'on va essayer de convaincre les anti-vaccins, qui sont nombreux, les hésitants? C'est encore autre chose. Ou est-ce qu'on va s'appuyer tout de suite sur les gens qui ne demandent qu'à être vaccinés dès que c'est possible? Ça, c'est une décision. C'est pas la logistique, voyez. Après, est-ce qu'il faut absolument sans arrêt se protéger des recours judiciaires qui deviennent une plaie, avec la judiciarisation globale de la moindre décision publique? Ça, c'est le traumatisme qui remonte aux attaques de l'époque du sida, fondamentalement injuste, d'ailleurs, notamment par rapport à Laurent Fabius. Hein. Mais donc, il y a une mémoire de ça. Donc, il faut se protéger sans arrêt. C'est le principe de précaution au carré sur chaque décision. Donc lenteur. Après, il peut y avoir une décision plus ou moins justifiée sur précisément le rythme. On a entendu de certains responsables l'éloge de la lenteur, pour justement que le pignon soit convaincu peu à peu. Donc on peut débattre de ça, c'est un premier débat. Est-ce qu'il ne fallait pas aller tout de suite plus vite en partant des gens demandeurs? Après, il y a la logistique. La logistique, c'est une fois qu'on a décidé. Alors, je mets de côté la réussite extraordinaire mondiale de la fabrication de vaccins incroyables en peu de temps, c'est jamais arrivé, et ça aura des suites par rapport à d'autres pathologies. Donc ça, c'est un élément très positif. Mais la logistique, c'est, bon, ok, on a adopté une stratégie, qui produit, qui achète et qui répartit. Bon, là, je n'insulte personne en disant que l'appareil d'État moderne, contemporain, n'est pas spécialement compétent en matière de logistique. Il n'y a pas que nous ici. Nous sommes incompétents. Bon, l'appareil d'État fonctionne pas bien par rapport à ça. Qu'est-ce qui est capable de faire de la logistique? L'armée. Ou alors les très grandes chaînes de distribution. Sans parler d'Amazon, c'est encore un autre débat. Ça. Donc, ils peuvent transporter des objets d'un endroit à l'autre très vite, de façon sûre. Après, il y a l'organisation de qui vaccine. Là, on entre dans d'autres débats. Est-ce qu'il faut des grands centres ou pas? Est-ce que c'est que les médecins, les pharmaciens? Donc, vous voyez, il faut la logistique, c'est un sujet sérieux, mais c'est une petite partie des débats actuels que vous avez mentionnés au début. Simplement.
Brice Couturier, lorsque l'on parle de logistique ces derniers jours, c'était le mot que tout le monde utilisait cette semaine, on a vu aussi énormément de reportages et d'articles sur l'État d'Israël. On essayait de comprendre comment ce pays avait réussi à vacciner 1,5 million de personnes en deux semaines et demie. Alors ce matin, dans le journal du dimanche, il y a l'interview de Ran Balisseur, grand spécialiste de la planification, qui explique que cette bonne logistique a été rendue possible d'abord bien sûr par le fait qu'Israël est un petit pays, mais il dit aussi que c'est parce que les quatre grandes structures de soins sont privées en Israël et sont donc habituées à une compétition au quotidien, donc ont investi précisément dans la logistique, dans la communication. Et puis cet article évoque aussi le rôle du Mossad comme ayant compris qu'il fallait acheter des vaccins avant tout le monde, même à un moment où ils étaient plus chers. Quel est votre regard sur cette actualité de la semaine et cette nouvelle compétition internationale qui se joue sur d'autres critères que la semaine précédente et sans doute que la semaine suivante?
Bon, il faut vraiment reconnaître une chose, c'est que le démarrage de notre campagne de vaccination en France a été d'une lenteur épouvantable. Le gouvernement a compris qu'il y a quelque chose qui s'appelle du benchmarking, qui permet aux gens de comparer la situation de leur propre pays avec celle des pays voisins comparables. Or, nous avons appris par Euronews, il y a quelques jours, que nous étions le dernier pays d'Europe avec les Pays-Bas pour le nombre de vaccinations par habitant, très loin derrière la plupart des autres, même des pays dotés beaucoup moins d'infrastructures capables d'acheminer le vaccin comme la Pologne ou la Roumanie. Ce qui est quand même très humiliant pour un État aussi puissant que le nôtre, disposant d'une administration aussi riche, aussi perfectionnée, aussi compétente que, la nôtre. Donc, même pour prendre l'exemple de l'Allemagne, à l'heure où je vous parle, nous parlons, l'Allemagne a vacciné 10 fois plus d'Allemands que la France n'a vacciné de Français. Alors, Hébert Védrine l'a dit, il y avait des raisons qui tenaient largement à ce qu'un membre de l'Élysée cité aujourd'hui par Le Point dit, on a été tétanisé par les anti-vax, oubliant que nos électeurs à nous étaient favorables au vaccin. Donc effectivement, il y a un principe de précaution qui fait que on n'ose pas, on demande, il y a des précautions extravagantes. Les directeurs d'EHPAD ont reçu, comme le disait Gérard Larcher, croyant qu'il s'agissait des pensionnaires de l'EHPAD et non pas des directeurs, contrairement à ce qu'il a dit. Donc, les directeurs d'EHPAD ont reçu un manuel de 50 pages à lire avant de commencer les campagnes de vaccination. Il y a eu beaucoup trop de précautions. Vous avez raison, Émilie Aubry, dans les pays où on a utilisé l'armée, ça a été beaucoup plus vite.
C'est pas moi qui le dis, hein, c'est spécialiste de la planification israélienne.
C'est le cas dans d'autres pays. Et l'armée s'est portée volontaire, elle a les moyens, elle sait faire. En matière de logistique, l'armée, c'est ce qu'il y a de mieux en France. C'est sans doute meilleur que bien des administrations de régionale de la santé. On ne l'a pas fait, on a pris du retard, la population était était furieuse. Le président a tapé sur la table, ce qui prouve que la stratégie n'était pas bonne, puisque le président lui-même l'a reconnu en disant que ses retards étaient insupportables, et il l'a fait savoir. L'intendance n'a pas suivi. Maintenant, on est face au problème traditionnel français, à savoir une administration super puissante, très compétente, mais très inefficace, avec en face des maires, des présidents de région, qui, eux, ont mis en place des structures de vaccination, qui proposent depuis longtemps des vaccinodromes, des endroits, et puis l'État qui n'est pas capable de fournir ses maires et ses présidents de région en dose de vaccins, alors qu'ils sont prêts à les administrer aux personnes qui veulent être vaccinées. Juste un détail, chaque jour de confinement supplémentaire nous coûte des milliards. L'État est à bout de force en ce qui concerne le soutien à l'économie privée. Il faut vacciner très vite, le plus vite possible, pour que l'économie puisse reprendre, que la culture puisse continuer son travail, que la restauration et le tourisme puissent continuer à travailler dans ce pays. Et donc, ça justifierait de consacrer les centaines de millions qui sont nécessaires pour faire arriver les vaccins là où ils sont nécessaires le plus vite possible.
Thierry Pech, il y a ce que Brice appelait à l'instant le benchmarking depuis le début de cette pandémie. En effet, on benchmarkait. Je me souviens que Terra Nova aussi avait benchmarké après le premier confinement.
En français, on dit on se compare.
Oui, hein. J'attendais pour les auditeurs qui n'auraient pas. Voilà. On a déjà des mails d'insultes en ce moment parce qu'on a utilisé ce terme-là. Cette étude de Terra Nova qui montrait aussi la complexité de cette évaluation-là et comment il faut mixer, croiser, cumuler un certain nombre de critères. Alors, en effet, on cite beaucoup l'Allemagne qui vaccinerait beaucoup plus vite que nous, mais si l'on compte le nombre de contaminations et de morts ces derniers jours, la France est meilleure que l'Allemagne. Ça pose des questions vertigineuses. Faut-il, au fond, dès à présent, s'exercer à ce genre de classement ?
Écoutez, si on le fait, il faut le faire bien. Il faut le faire avec pas mal d'exigences. Nous, ce qu'on a fait, on a essayé de le faire correctement. Et donc, c'est un vrai travail. Ça ne se fait pas comme ça, en claquant dans les doigts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, personnellement, la comparaison avec les autres ne dispense pas de la comparaison avec soi-même dans le temps. Et moi, le discours un peu pavlovien sur l'impotence de l'État mammouth, etc., j'achète pas tout de suite. J'achète pas tout de suite parce que c'est le même État qui teste plus que partout ailleurs en Europe, alors qu'on avait dit qu'il ne saurait pas faire. On a testé des millions de Français en décembre. Hein. Bon. C'est le même État qui, dans le silence général, en tout cas dans l'indifférence totale des journalistes à l'époque, a vacciné quelque chose comme 13 millions de Français contre la grippe en 2 ou 3 semaines cet automne. Je dis que ce n'est pas cet État, hein, parce que c'est des généralistes, c'est des soignants qui l'ont fait. Mais tout ça a été organisé par l'État. Donc moi, le discours sur l'impotence de l'État, j'adhère pas tout de suite, je demande à voir, on verra, on fera les comptes. Bon. Je pense, en revanche, comme Hubert, qu'il y a une erreur au départ, qui n'est pas une erreur de logistique, qui est une erreur stratégique. Le gouvernement est entré en mêlée sur cette question de la vaccination en se posant un problème de psychologie sociale. Les Français sont défiants, il faut y aller doucement, et surtout, il ne faudrait pas avoir contre nous les généralistes. Du coup, on a fait un raisonnement absurde, cautionné par la Haute Autorité de Santé, c'est qu'il ne faut surtout pas faire des centres de vaccination collective, les fameux vaccinodromes. D'ailleurs, regardez, en 2009, ça a été une catastrophe. Alors moi, j'ai regardé. Je suis allé voir le rapport de la commission d'enquête parlementaire de 2010. Elle ne dit pas du tout ça, la commission d'enquête parlementaire de 2010. Elle dit, oui, il faut impliquer les généralistes autant qu'on peut, parce qu'ils ont la confiance des patients, mais il faut, en cas de pandémie, des centres de vaccination collective. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de contraintes. Et il y en a une, par exemple, c'est qu'il faut que vous sépariez les flux de malades des flux de personnes à vacciner. Et dans un cabinet généraliste, ce n'est pas toujours facile, voyez. Donc, bien sûr qu'il faut des centres de vaccination. Et d'ailleurs, le gouvernement en est convenu au bout d'une semaine. Il a changé de pied et aujourd'hui, on va vacciner comme font les autres et comme nous faisions nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut aussi se comparer à soi-même dans le temps, comme nous faisions nous-mêmes en cas de pandémie il y a encore 10 ans. Maintenant, il faut quand même réfléchir au discours des syndicats de généralistes, au discours de la Haute Autorité de Santé, qui s'est autorisée à porter sur 2009 un jugement et une interprétation qui me paraissent un peu cavaliers.
Dernière question et mot de la fin pour vous, Sylvie Kaufmann. Est-ce que vous avez aussi eu le sentiment cette semaine d'assister à une politisation de ces enjeux sanitaires ?
Oui, bien sûr. Juste une chose pour compléter ce qu'a dit Thierry Pech sur la soi-disant impotence de l'État. Cet État, il se montre aussi assez compétent dans la distribution de l'aide économique. Visiblement, là, ça marche assez bien et à un niveau qui est supérieur à bien d'autres États européens. Oui, il y a une politisation, et on le voit aussi en Allemagne, parce que la critique, la polémique est énorme en Allemagne, bien que le niveau de vaccination
bien que nous, nous les regardons comme l'exemple absolu.
Mais l'Allemagne est rentrée en campagne électorale. Il y a des élections en septembre, très fondamentales. C'est la fin de l'ère Merkel. Rien n'est décidé encore sur son successeur. Ils sont à couteau tiré au sein de la CDU. Donc, on y va. La chasse est ouverte. Et en France, on voit bien qu'on est aussi pas mal dans ce contexte, avec les Républicains qui lancent une grande offensive. Anne Hidalgo aujourd'hui dans le JDD, etc. Donc il y a ce contexte-là. Je voulais citer un élément positif. Hubert Védrine parlait tout à l'heure de souligner l'exploit scientifique que représentait le développement de ces vaccins en des temps sans précédent, enfin en des temps vraiment records, avec une rapidité extraordinaire. Moi, je trouve que la décision de l'Union européenne, enfin des 27 États membres, de mutualiser les commandes du vaccin, c'est aussi quelque chose de très intéressant et de très positif parce que imaginez si chaque État était libre de commander ses vaccins, mais ça serait une ruée, une course. Évidemment, ça serait les Allemands qui auraient tout en bas, c'est toujours pareil. À la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, comme au football. Et donc, il y aurait des États qui se retrouveraient sans vaccins. Donc, voilà. Et dernière chose, et je termine là, en effet, on se heurte tous maintenant à la limite des capacités de production. Y compris Israël, il manque maintenant de doses et il faut, je pense que ça c'est le prochain effort à fournir, c'est comment à un niveau mondial arriver à augmenter ses capacités de production des vaccins.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre, Sylvie Kaufmann, Brice Couturier, Thierry Pech et Hubert Védrine. Merci à Marine Beccarelli qui comme toujours a préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisé, à la technique aujourd'hui. Un grand merci à Benjamin Perru, à Fung Mai Tran, à Julien Bourdet, à Gaël Brawezek, à Francesca Fossati, à Franck Malabry et à Wojtek Noiret. Dans un instant, on retrouve bien sûr Caroline Brouet et ses bonnes choses. Caroline sait que nous avons trop mangé et gonflé pendant les fêtes. Elle nous invite au jeûne. Quant à Marc Weisman, à 12h45 dans Signe des Temps, il revient sur le livre de Camille Kouchner. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver dimanche prochain. Merci à l'Espace Cardin qui nous accueille. Excellente semaine à tous à l'écoute de France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Trop d'informations.